Bonjour Emmanuel et bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins.
Darwin est dans la place, hauteur, sister, chasseur, cueilleur, quand on voit arriver, sortie du Crétacé, la théorie de l'évolution, on se met à douter, les herbes tu les suces, façon diplodocus, je vais faire oublier le sens du mot erectus.
Bienvenue sur les chemins du vendredi où chaque semaine nous donnons la parole aux philosophes contemporains qui s'aventurent dans les dédales de la pensée. Pensée classique ou pari fou, philosophie première ou transdisciplinaire, notre seul but est de vous faire voyager encore et toujours dans et sur les chemins de la connaissance. Nouveauté en cette rentrée, les 2 minutes papillon de Géraldine Mosna-Savoie que vous retrouvez à 10h50 du lundi au jeudi se transforme cette année tous les vendredis en petit précis philosophique à l'usage des candidats. Vous la retrouverez donc aujourd'hui en fin d'émission pour donner quelques conseils d'éloquence aux candidats écolos. Et aujourd'hui, c'est un ouvrage de près de 1000 pages que j'ai sous les yeux, une somme complète, exhaustive et passionnante sur le matérialisme, c'est-à-dire sur le lien entre Darwin, le symbolisme, l'Égypte ancienne, les neurosciences, la biologie et la conscience. L'auteur de ce livre est le philosophe, linguiste, théoricien des sciences, directeur de l'Institut Charles Darwin International, Patrick Thore, que j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui. Donc, bonjour à vous Patrick Thore.
Bonjour. Ce livre n'est pas un livre de philosophie. Son objectif principal étant de démêler sans limite d'extension la complexité des actions et des interactions discursives dans le mouvement de l'histoire et de produire à son propos quelques grandes règles d'intelligibilité, il inclut nécessairement la philosophie dans le champ des objets qu'il analyse. Il doit donc être clair qu'il ne s'inscrit pas en elle et ne lui reconnaît, au regard de la vérité, aucun des privilèges dont elle se pare. S'il est juste en effet de défendre activement la philosophie comme exercice rationnel, multiplication indéfinie des occasions de penser et incitation permanente à expérimenter intellectuellement sur le possible, il n'y a en revanche aucune pertinence du point de vue des exigences de la connaissance objective à la considérer comme un mode privilégié d'accession à quelque vérité que ce soit. À cet égard, son statut ne se distingue pas substantiellement de celui d'une sophistication savante de l'idéologie, et sa caractéristique la moins réfutable, qu'elle partage du reste avec la conversation, ce qui engage sensiblement à réévaluer le sens de son ancienne proximité pédagogique avec la rhétorique, et, comme nous l'expliquerons un peu plus loin, de pouvoir s'offrir tous les objets.
Alors nous allons avoir aujourd'hui, Patrick Thore, une conversation, si possible philosophique, à propos de votre ouvrage dont vous venez de lire le début, les premières lignes de l'avant-propos. L'ouvrage s'appelle « Qu'est-ce que le matérialisme ?», le sous-titré « Introduction à l'analyse des complexes discursifs », qu'on va s'empresser de définir, mais avant cela, pourquoi avoir pris soin de préciser que ce livre n'est pas un livre de philosophie ?
Eh bien parce qu'il opère lui-même une sorte de sortie de la philosophie au profit d'un autre regard qui est bien sûr infiniment plus proche des pratiques que nous nommons scientifiques et parce qu'il veut, en quelque sorte, donner un corps d'illustration et un champ de principes théoriques à des tentatives qui ont eu lieu avant moi. On peut évoquer, bien sûr, celle de Michel Foucault, qui ont échoué parce que, précisément, elles n'ont pas pu échapper ni à la philosophie, ni, dirais-je également, à la littérature. Rappelez-vous, nous sommes dans les années, au tout début des, fin des années 60, tout début des années 70, et il y a un monsieur dont on parle beaucoup, qui s'appelle Roland Barthes, qui a déjà fait parler beaucoup de lui dans le milieu universitaire des études littéraires, et qui publie un livre intitulé « Système de la mode », qui commence par cette phrase « Ce livre est un livre de méthode ». Eh bien, il ne lui faudra pas 5 ans pour résilier, en quelque sorte, son contrat méthodologique et déclarer que finalement, la méthode, c'est ce qui caractérise éminemment les gens qui ont de la peine à jouir, voyez-vous. Donc, c'en était fini à la fois de la méthode et, je crois, de la théorisation sérieuse. Et on revenait au plaisir du texte, on revenait à une sorte d'impressionnisme fondamental où la littérature, qui avait commencé d'être analysée avec des instruments un peu scientifique, revenait effectivement un petit peu à ce qu'elle était pour la critique de Théophile Gautier au XIXe siècle, c'est-à-dire un objet de plastique, de jouissance, de plaisir,
ce qui n'est pas
et d'appréciation
si mal,
subjective, ce qui est sa destination en ce qui concerne bien sûr son public, mais qui n'est pas forcément l'attitude qu'il faut avoir quand on veut parler savamment de la littérature, c'est-à-dire construire un savoir qui éclairerait éventuellement sur le plaisir qu'on prend effectivement à sa lecture sans pour cela forcément l'altérer. Donc ce pari méthodologique a été fait à la fois par des gens comme Roland Barthes, mais aussi par Michel Foucault, au début de son œuvre théorique, son œuvre d'historien, comme on voudrait, parce qu'il aimait à se définir comme un historien. Et si on lit aujourd'hui l'archéologie du savoir, eh bien, on comprendra qu'il y avait quand même une intention méthodologique qui présidait à cette grande entreprise qui, pour l'heure, était loin d'être terminée. Oui, Foucault a fait le pari de la méthode et dans ses derniers textes, il reconnaît qu'il a échoué.
Écoutons-le.
Le structuralisme n'est aucunement une philosophie, c'est une méthode d'analyse. C'est un style de travail, c'est une forme générale de déchiffrement. Tout ce que l'homme a pu laisser de traces derrière lui ou autour de lui peut relever et doit relever d'une analyse de type structural. Les affiches, les livres, les œuvres littéraires, les pièces de théâtre, l'architecture, la peinture, la philosophie, les sciences elles-mêmes, etc., tout ce qui peut être considéré comme produit de l'activité humaine, tout cela doit relever d'une analyse de type structural. On peut, entre les éléments qui constituent ces traces de l'activité humaine, découvrir des relations qui ne sont ni des relations de type naturel, ni des relations de type psychologique. Jusqu'où va la structure ? Peut-être après tout, est-ce que nous allons vers une espèce de science, sinon unitaire, parce qu'elle sera toujours diversifiée, mais une sorte de science qui serait celle en général de l'information ou des communications. Maintenant, peut-être un jour, aux yeux de ceux qui nous suivront, eh bien, nous apparaîtrons comme étant des philosophes ou de curieux philosophes ou d'étranges philosophes ou des philosophes aberrants. Et puis, c'est eux-mêmes, nos successeurs, qui auront l'impression que eux, ils ont perdu cette philosophie ou que nous l'avons perdue pour eux et qu'eux, à leur tour, sont dans la nuit. Au fond, le propre de la philosophie, c'est qu'elle ne sait jamais au juste ce qui est le jour et ce qui est la nuit.
C'était le 17 janvier 1968 que Foucault a prononcé ces mots, ces paroles. Le structuralisme n'est pas une philosophie, dit-il, c'est une méthode d'analyse. Vous proposez de même, Patrick Thore, dans cet ouvrage, la définition d'une méthode qui permette de ressaisir au plus près d'une forme de vérité que vous distinguez de la vérité philosophique, mais qui quand même justifie votre démarche lorsque vous interrogez ce qu'est le matérialisme.
Oui. Je crois que j'ai pris des distances infiniment plus grandes que Foucault avec la philosophie. Si on interprète convenablement ce que nous venons d'entendre, en tout cas, puisqu'il renvoie toujours ultimement à une philosophie. Je dirais que ce que j'appelle analyse des complexes discursifs n'est pas compatible avec les représentations que donne Michel Foucault des ensembles discursifs. Puisqu'on va parler de ça très simplement, il parle de formation discursive, pourquoi pas, ou de configuration discursive, ce qui évoque des limites de type circonscriptif. Et il essaie bien de voir ce qui se passe à l'intérieur de ces limites, s'il se passe quelque chose, ou bien comment ces ensembles sont structurés. Ce qui est effectivement le point de départ d'une connaissance scientifique, n'en doutons pas. Hein. Il m'est arrivé, justement, je raconte cette anecdote un peu dans ce livre, d'avoir un jour à faire un cours au Collège de France aux élèves de Claude Lévi-Strauss, qui étaient terrifiés. C'était après, là, il y a très longtemps, c'était dans les, je dirais probablement au début des années 90, après la sortie de mon livre La raison classificatoire, qui, bien entendu, ne s'inscrivait pas du tout dans le mouvement structuraliste, mais essayait déjà de définir et de saisir ce qui, à l'intérieur des structures, travaille à leur propre transformation. Et c'est la leçon que j'ai tenté de donner ce jour-là à ces anthropologues, et en la fondant, bien sûr, sur des choses extrêmement complexes du côté de la linguistique, notamment jacobsonienne. Et les gens qui étaient présents ont accueilli ce message comme une sorte de délivrance, parce qu'ils s'attendaient à ce que je fusse un exterminateur de ce en quoi ils croyaient, et de ce dont ils vivaient d'ailleurs à l'époque, sur le plan théorique. Et ils ont découvert que je venais simplement leur dire « Ne vous inquiétez pas, le structuralisme peut se définir comme une sorte de technologie de la descente dans l'objet, absolument nécessaire à ce que les grands fondateurs du structuralisme, hein, notamment, le terme n'existait évidemment pas, en 1916 Ferdinand de Saussure, et après lui Vladimir Propp, ont insisté sur la nécessité de poursuivre sur les deux axes, l'axe synchronique, l'axe des coexistences, donc, et l'axe des successivités, l'axe diachronique, l'analyse des objets à l'intérieur des sciences travaillant sur des valeurs, disait-il. Alors, le choix synchronique du structuralisme, même s'il n'est pas impliqué expressis verbis dans les textes fondateurs, l'est par un effet d'oscillation au cours de l'histoire, dont je reprends un peu ces analyses dans Qu'est-ce que le matérialisme, une oscillation entre des périodes où on s'intéresse au système et des périodes où on s'intéresse essentiellement à l'histoire et aux transformations. L'un des exemples est précisément tout à fait empruntable à la linguistique elle-même, puisque on se souvient bien sûr que ce qui a dominé la seconde moitié du 19e siècle, c'est la linguistique historique et comparative. Et ce qui a dominé le début du siècle suivant, ça a été au contraire le synchronisme saussurien.
Alors, je rassure les auditeurs, puisque nous venons de passer un moment sur la dimension méthodologique de votre ouvrage, qui est déterminante, mais il y a une deuxième façon de le lire aussi, hein. C'est de partir d'un acte qui serait moins méthodologique que thématique, à savoir ce que vous avez entrepris depuis le début des années 80, l'exploration du continent darwinien et la façon, la place qu'occupe Darwin au sein de cette histoire du matérialisme et ce à quoi lui-même a donné le jour. Ce qui fait qu'on se promène, je l'ai dit en début d'émission, hein, à travers l'Égypte, le matérialisme, Lucrèce, Diderot, et que vous tracez ici, vous proposez une forme de voyage au sein des textes matérialistes, tout en mettant au point de manière assez régulière d'ailleurs quand on lit l'ouvrage, ce que vous entendez, enfin la définition de ce que vous appelez les analyses des complexes discursifs. Je vous propose juste de nous proposer une définition aussi claire que possible de l'ACD, l'analyse des complexes discursifs, avant de prendre des exemples particuliers.
Eh bien, je ne vais pas la définir parce que ça serait de toute façon donner une idée trop limitée de ce qu'elle est en mesure d'opérer. Je dirais que ce que j'ai nommé l'analyse des complexes discursifs, la notion même de complexe discursif, doit être définie par rapport, en principe, à un objet, à un thème central autour duquel, effectivement, du discours s'organiserait. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'au lieu d'objet, il m'apparaît chaque fois nécessaire de parler d'enjeu. C'est autour d'un enjeu que ce que je nomme un complexe discursif se déploie. Autrement dit, imaginons une situation comme celle que je décris dans un des chapitres de ce livre, une situation où des historiens chrétiens, réagissant contre l'idée promu par Pierre Bayle à la fin du siècle précédent, suivant laquelle une nation datée peut atteindre un très haut niveau de civilisation. Cette proposition philosophique de Bayle, évidemment, suscite une sorte de scandale dans les consciences chrétiennes, et les historiens chrétiens des anciens peuples, les archéologues chrétiens, les spécialistes chrétiens des inscriptions vont se mobiliser pour montrer qu'en fait, la Chine n'est pas, comme le prétendent certains philosophes matérialistes, une nation datée, mais possède un système de croyances qui l'apparente nécessairement à la véritable religion, celle bien sûr qui est la nôtre. Et ils vont donc inventer, en 1750, sous la plume de l'abbé Joseph de Guignes, une théorie suivant laquelle les Chinois sont une colonie égyptienne. Rattachant donc de ce fait la Chine, d'un point de vue diffusionniste, c'est-à-dire typiquement chrétien, au bassin de la Méditerranée. Cette thèse va être reçue dans le milieu savant comme la vérité pendant un certain nombre d'années, même si elle est par ailleurs contestée à l'intérieur de l'Académie des inscriptions et belles-lettres de Paris. Et nous allons avoir la preuve que la Chine et l'Égypte fonctionnent alors comme de prodigieux enjeux de discours. Le complexe discursif qui alors se déploie non pas autour de la Chine et de l'Égypte, mais de la Chine et de l'Égypte comme enjeu pour la survie d'une partie essentielle du dogme chrétien. Voilà ce qu'est en réalité un complexe discursif.
Les mouvements sont enchaînés dans la nature, si toujours d'un premier naît un second suivant un ordre rigoureux, si par leur déclinaison les atomes ne provoquent pas un mouvement qui rompt les lois de la fatalité et qui empêche que les causes ne se succèdent à l'infini, d'où vient donc cette liberté accordée sur Terre aux êtres vivants? D'où vient, dis-je, cette libre faculté arrachée au destin qui nous fait aller partout où la volonté nous mène? Nos mouvements peuvent changer de direction sans être déterminés par le temps ni par le lieu, mais selon ce que nous inspire notre esprit lui-même. Car sans aucun doute, de tels actes ont leur principe dans notre volonté, et c'est de là que le mouvement se répand dans les membres. Ne vois-tu pas qu'au moment où s'ouvre la barrière, les chevaux ne peuvent s'élancer aussi vite que le voudrait leur esprit lui-même ? Il faut que de tout leur corps s'anime la masse de la matière, qui, impétueusement portée dans tout l'organisme, s'unisse au désir et en suive l'élan. Tu le vois donc, c'est dans le cœur que le mouvement a son principe. C'est de la volonté de l'esprit qu'il procède d'abord, pour se communiquer de là à tout l'ensemble du corps et des membres. Patrick Thore, puisque vous disiez que les complexes discursifs avaient pour caractéristique de s'intéresser à des enjeux plus qu'à des vérités ou à des points de vue, eh bien, peut-être un des enjeux du matérialisme, c'est de savoir comment proposer une explication, si explication il peut y avoir, de ce qu'on appelle la liberté dans un univers qui serait, à proprement parler, matérialiste, c'est-à-dire, pourquoi pas, dans l'univers de Lucrèce, dont je viens de lire un texte, et auquel on a consacré une semaine, il y a tout début septembre, un univers fait d'atomes, où tout s'explique selon le processus de la cause et de l'effet. Comment expliquer qu'au champ 2 de son ouvrage sur la nature, Lucrèce invoque l'existence d'une liberté qui serait l'expression d'une volonté, d'un esprit, et même d'un cœur? On est là, il y a comme une réconciliation avec un dualisme qui semble complètement contradictoire avec le monisme, l'idée qu'on se fait en tout cas du monisme matérialiste.
Alors votre question est extrêmement intéressante. Je ferai quand même, avant d'y répondre, une remarque sur la traduction que vous avez lue, qui n'a pas grand-chose à voir avec le texte de Lucrèce, ou plus exactement, qui s'en éloigne.
Ah, c'est pas la vôtre, en tout cas.
Non, précisément, c'est pas du tout la mienne, qui est d'une grande précision, et qui s'interdit les enjolivements littéraires. Elle est très jolie quand on l'entend, mais elle ne correspond pas véritablement au concept employé par Lucrèce. Cela dit, pour vous répondre, je dirais que la science moderne s'est construite sur un mode de matérialisme qui est celui de Leucippe et de Démocrite, où il y a des atomes qui sont mus par des forces et qui se transmettent des chocs, des impulsions, etc. Ce que j'appelle assez aisément un matérialisme passif ou un matérialisme de la répercussion. Et là, vous avez raison de dire qu'effectivement, il n'y a pas de liberté, puisque chaque corps reçoit d'un autre corps qui le heurte une impulsion qui l'envoie dans un certain sens, il va à son tour transmettre à un ou plusieurs autres corps une impulsion comparable, etc. Nous sommes donc dans ce que vous nommeriez l'univers de la nécessité. Et c'est ce matérialisme-là qui a permis effectivement le développement, au XIXe siècle principalement, de toutes les sciences qui ont été déterminantes, qu'il s'agisse de la chimie, de la cinétique des gaz, etc. Donc nous avons un matérialisme qui va nous poser des problèmes forcément dans des domaines où quelque chose de contingent va survenir, qui semble ne pouvoir être expliqué de cette façon. Par exemple, la biologie. La biologie a affaire au vivant, hein, et le vivant, c'est l'expérience même d'un déterminisme qui n'est pas seulement un déterminisme passif. Il y a une autonomie du vivant, et j'insiste, à chaque étage du vivant, à chaque niveau d'intégration du vivant.
C'est-à-dire y compris dans la cellule.
Y compris dans la cellule, et je pense qu'il est tout à fait nécessaire que j'y vienne maintenant, parce que, vous savez, lorsqu'on explique à une tribune, lorsque l'on explique que la cellule a une conscience, très souvent, dans les 5 premières minutes, on nous regarde avec une sorte d'air ébahi. Et un frisson parcourt l'assistance des gens instruits qui se disent « voilà quelqu'un qui va nous raconter une grande histoire providentialiste qui n'a rien à voir avec la science ». Or, 5 minutes après, ils sont tous effectivement d'accord avec ce que je leur explique.
À savoir que la cellule a une conscience.
Alors, je vais y venir et je rends hommage à cet immense biologiste qui était Faustino Cordone et à cet ami très cher qui s'appelait Chomin Concilios, avec qui j'ai mis au point le livre des voies, de l'émergence chez Belin, et j'en parle et je leur rends hommage à l'un et à l'autre de ce livre précieux, qui parle précisément des niveaux d'intégration du vivant et de la façon dont on passe d'une association de molécules à une protéine globulaire, d'une association de protéines à une cellule, d'une association de cellules à un animal. Bien. Alors, pourquoi conscience cellulaire? Eh bien, pour comprendre d'une manière matérialiste, c'est-à-dire scientifique et cohérente, la façon dont fonctionne le vivant, eh bien, il faut redéfinir la conscience. Je prends l'exemple d'une cellule qui va se nourrir dans son milieu. Chaque cellule prend son nutriment moléculaire dans un milieu. Ses modes de captage ou d'absorption sont différenciés du reste, mais il reste qu'elle a une attitude active dans cette relation. Elle va donc prendre une première dose de nutriments. Et en fonction du différentiel qu'elle perçoit entre ce qu'elle attendait de cette première prise et ce qu'elle en a effectivement reçu, elle va régler son second mouvement de captage. Bien sûr, tous les biologistes seront d'accord avec moi pour décrire dans les mêmes termes ou à peu près ce mécanisme. Je définis la conscience comme étant cette perception minimale d'un différentiel. Nous avons là le primordium de la conscience et la définition qui en jaillit en quelque sorte du vivant et qui était la définition de Cordone. Un être vivant est un foyer d'action et d'expérience. La cellule est un être vivant. Ou encore, dans les termes de la théorie des unités de niveau d'intégration, un organisme, et en tant que tel, en tant qu'elle possède un métabolisme, possède forcément ce quantum de conscience et de liberté.
Mais la question est l'apparition même de ce que vous nommez ce quantum de conscience. Comment d'un univers matériel surgit ce que nous appelons aujourd'hui un être vivant ou même une conscience ? Y a-t-il un saut qualitatif ? Ou bien est-ce par degrés infinitésimaux que la matière va peu à peu se transformer en vie?
Alors là, il s'agit bien sûr d'une question qu'il faut poser à la fois à les spécialistes, enfin, à tous les spécialistes des sciences de la nature, bien sûr, mais Cordone y répondait par le jeu de force, un jeu de force qui sont des forces essentiellement des forces de van der Waals. Mais c'est une façon amusante lorsque vous me dites comment passe-t-on d'un univers matériel à un univers, vous êtes dans le dualisme et spontanément.
Ah ben, mais là, je me fais porte-parole aussi de Lucrèce, dont j'ai lu le texte, c'est
nous,
ça que...
Nous sommes dans un univers matériel.
J'entends bien que pour vous, les deux ne sont pas contradictoires.
Vous pensez que justement, ce qui est intéressant chez Lucrèce reproduisant Épicure, bien sûr, commentant et expliquant Épicure, eh bien donc, ce qui est intéressant chez Épicure, on va le dire directement, c'est l'idée que la liberté est incluse... Alors, je n'aime pas dire les choses aussi brutalement, hein, mais... Il y a dans le stoïkeion, dans l'élément, dans l'atome, si on veut, quelque chose qui peut rompre les pactes du destin.
C'est le clinamen chez Lucrèce.
C'est le clinamen en tant qu'il est produit par sa capacité à l'intérieur même de l'atome de matière.
C'est-à-dire la déviation par un atome d'une trajectoire.
Absolument. Le matérialisme de Lucrèce intègre la contingence, c'est-à-dire ce qui va se développer en liberté, c'est-à-dire ce qui nous dispense en fait de poser la question de son origine.
Mais la contingence n'est pas forcément la liberté, l'indétermination n'est pas forcément la volonté. Ce qui est surprenant dans le texte de Lucrèce, qui à mon sens, hein, c'est pour ça que je vous le propose aujourd'hui, est emblématique du problème que l'on rencontre quand on découvre des textes d'immatérialistes, rien ne permet d'expliquer, d'inférer l'existence du cœur, de l'esprit, de la volonté à partir du constat d'une contingence.
Alors, le mouvement qui s'oppose à la chute verticale des atomes chez Lucrèce, ce mouvement est une improvisation de l'élément. Vous êtes d'accord là-dessus ? Le fait qu'il soit un mouvement... qui rendent compte en quelque sorte d'une spontanéité ou d'une initiative du stoïkeion, ou bien de l'atome, est à penser comme, alors là vous me direz qu'il s'agit d'une extrapolation des philosophes, mais on ne peut pas faire autrement, comme l'inscription en quelque sorte intime au plus simple de la particule élémentaire, de la capacité qui va se développer après, sous la forme que nous connaissons, de la liberté. Autrement dit, bien sûr, Épicure est absolument nécessaire pour penser le transformisme. Et avant cela, l'évolution de la matière. Donc nous sommes dans un matérialisme qui est d'une autre nature que celui de Leucippe et Démocrite, et nous allons pouvoir, grâce à lui, peut-être faire l'économie d'un certain nombre d'interrogations sur l'origine, qui étaient en quelque sorte des interrogations mal formulées parce qu'elles étaient à partir du dualisme, et que maintenant nous allons pouvoir suivre au moins dans l'élément de l'immanence jusqu'à ces derniers développements.
À mesure que l'homme avance en civilisation et que les petites tribus se réunissent en communautés plus larges, la plus simple raison devrait aviser chaque individu qu'il doit étendre ses instincts sociaux et ses sympathies à tous les membres d'une même nation, même s'ils lui sont personnellement inconnus. Une fois ce point atteint, il n'y a plus qu'une barrière artificielle pour empêcher ses sympathies de s'étendre aux hommes de toutes les nations et de toutes les races. Il est vrai que si ces hommes sont séparés de lui par de grandes différences d'apparence extérieure ou d'habitude, l'expérience, malheureusement, nous montre combien le temps est long avant que nous les regardions comme nos semblables. La sympathie portée au-delà de la sphère de l'homme, c'est-à-dire le sentiment d'humanité envers les animaux inférieurs, semble être l'une des acquisitions morales les plus récentes. Cette vertu, l'une des plus nobles dont l'homme soit doué, semble provenir incidemment de ce que nos sympathies deviennent plus délicates et se diffusent plus largement jusqu'à ce qu'elles soient étendues à tous les êtres sensibles.
Le matérialisme est-il forcément un déterminisme? La femme est-elle forcément faite pour l'homme? En tout cas, c'est Arletty qui le chante. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Bienvenue sur les chemins du vendredi, où j'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir Patrick Thor, qui vient nous parler de son dernier ouvrage, publié aux éditions Belin, « Qu'est-ce que le matérialisme? Introduction à l'analyse des complexes discursifs ». Nous avons entendu avant d'écouter Arletty, Patrick Thor, était un texte de Charles Darwin, de La filiation de l'homme, en 1871, interprété par Georges Clès. Un texte que l'on trouve dans votre ouvrage et qui est associé de particulièrement intéressant, qu'il donne à entendre un concept qu'on associe peu à Darwin et qui est celui de sympathie. Or, ce concept est précisément ce qui vous permet de répondre à la question que je vous posais, savoir comment est-ce que le matérialisme peut justifier, expliquer l'apparition de la vie, faut-il faire un saut qualitatif ou pas? Eh bien, c'est dans et par la sympathie que Darwin explique finalement le passage d'une sphère de la nature régie par la stricte loi de la sélection à l'état d'une société dite civilisée. Et ici, donc, le problème se pose à une échelle collective, non pas simplement individuelle, ou comme vous preniez l'exemple de la cellule.
Oui, c'est-à-dire que là, nous sautons au niveau du niveau d'intégration animale, ce qui est le nôtre. Et donc, en fait, la dynamique qui se découvre dans ce livre extraordinaire qui est La filiation de l'homme et la sélection liée au sexe de 1871, dont est extrait ce passage que j'ai souvent cité, et puis que j'ai traduit, bien entendu, avec mes collaborateurs, puisque là, vous avez cité notre traduction, un petit hommage aux éditions Sletkin et aux éditions Champion, qui ont fait l'édition de ce texte en français, et de l'ensemble de l'œuvre de Darwin qui est en cours. Eh bien, ce texte est absolument essentiel pour comprendre la dynamique de la civilisation. Vous vous souvenez que dans la nature, comme on dit, c'est-à-dire en gros dans le règne animal et dans le règne végétal, la loi décrite par Darwin en 1859 dans L'origine des espèces, c'est la loi de sélection naturelle qui résulte de la lutte pour l'existence entre les organismes dans un milieu donné qui lui-même est limité quant aux ressources et quant à l'espace. Eh bien, lorsque l'espèce humaine se développant, conquiert, grâce à sa vie sociale et grâce au développement des facultés cérébrales qu'elle occasionne, la liberté non d'échapper au déterminisme du milieu, c'est-à-dire de transformer son propre milieu en échappant de ce fait pour une grande part aux pressions sélectives qui le caractérisaient. L'espèce humaine, à ce moment, commence à ne plus avoir besoin de se transformer elle-même pour répondre en quelque sorte aux obligations adaptatives qui sans cesse pèsent sur les organismes végétaux et animaux en général. L'espèce humaine conquiert donc la capacité extraordinaire de transformer son milieu en adjuvant de survie. cela implique un dépérissement de la sélection naturelle, et cela implique la liberté, effectivement, d'invention et d'amélioration de tout ce qui concerne la transformation de ce milieu dans le sens du plus grand bien-être possible pour les groupes humains concernés. C'est ce que Darwin, qui va bien entendu développer ce thème sur plusieurs plans, nomme le processus de civilisation, tout simplement. La sélection naturelle sélectionne des instincts sociaux qui s'accompagnent d'une forte augmentation des capacités rationnelles. La sélection donc sélectionne ces instincts sociaux et produit la civilisation qui s'oppose à la sélection naturelle, laquelle effectivement entre en phase de dépérissement sans toutefois totalement disparaître.
C'est ça. Est-ce que ça veut dire que la civilisation serait synonyme de la fin de l'évolution ?
Ce n'est pas du tout cela. La civilisation serait en quelque sorte le commencement d'une autre évolution où ce qui serait en concurrence ne serait plus forcément et toujours en concurrence mortelle et éliminatoire des individus eux-mêmes, mais peut-être les technologies qu'ils inventent.
C'est ça. Et la sélection serait plus la sélection naturelle avec de rencontres de forces de nature, mais peut-être par le biais de l'invention, vous dites, de technologies ou autre.
Effectivement. Bon, c'est-à-dire que le développement rationnel prime et l'éducation prime sur les facteurs, je dirais, archaïques de l'évolution biologique de l'espèce.
Donc l'homme sera en quelque sorte devenu maître de sa propre évolution ?
Dans une grande mesure, oui, mais il devient de ce fait capable d'erreur, il n'est plus guidé par l'instinct. Alors, bon, ça c'est une problématique finalement très darwinienne, et il y a toute une théorie de l'instinct chez Darwin qui ne prend pas soin d'ailleurs de le définir. On ne trouvera pas de définition de l'instinct chez Darwin, même s'il a écrit un texte spécial pour tenter de le circonscrire. Il n'y a pas de définition, il s'y refuse et il pense que nous savons très bien ce qu'est par exemple un rassemblement d'hirondelles au moment de la migration, et que par conséquent, chacun est capable de sous-entendre ou de reconnaître ce que l'on dit lorsque l'on parle d'instinct. Bien sûr, à travers les descriptions qu'en fait Darwin, on peut arriver à des éléments de définition assez intéressants. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que contre la théologie, contre l'histoire naturelle théologique, je dirais telle qu'elle est caractérisée par exemple par quelqu'un comme Jean-Henri Fabre, l'auteur, le célèbre auteur français des souvenirs entomologiques, eh bien contrairement à Fabre qui se représentait l'instinct comme une mécanique pure, parfaite et voulue-t-elle par Dieu qui a réglé toute cette grande harmonie, eh bien Darwin disait au contraire qu'au fond de chaque instinct il y a toujours une petite dose de raison qui permet à l'instinct de se tromper, de faire des erreurs, et qui lui permet également, lorsqu'il est en difficulté, de corriger cette erreur par des réajustements tels qu'on y assiste, par exemple, lorsqu'un oiseau construit son nid sur un support problématique et qu'il va donc modifier très légèrement sa construction pour parvenir à ses fins. Donc, une vision mixte de l'instinct qui lui permet d'y intégrer des éléments de rationalité au sein d'une évolution conjointe qui sera effectivement très intéressante, mais qui pourra donner lieu, dans notre vocabulaire évolué, à des dissociations conceptuelles entre instinct et intelligence qui ne sont peut-être pas si distinctes que ça à l'origine. Donc, l'intérêt, c'est de continuer à essayer de réfléchir sur ce qu'est l'instinct chez Darwin. Les instincts individuels entrent en régression, puisque les instincts sociaux ont pris le pas et ont permis justement ce développement social et cette activité rationnelle collective dont le bénéfice retombe sur chaque membre de la société qui n'a plus à faire des usages strictement individuels de ses facultés. Donc une sorte d'enrichissement par le collectif des capacités rationnelles et donc un progrès qui de ce fait se développe de cette manière et qui n'a plus rien à voir ou très peu avec les mécanismes sélectifs qui ont pourtant produit leurs racines, c'est-à-dire les instincts sociaux eux-mêmes. Donc c'est pourquoi j'utilise depuis si longtemps la métaphore du ruban de Möbius pour métaphoriser ce que j'ai nommé l'effet réversif de l'évolution.
C'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est le terme clé que je n'ai pas prononcé, ce passage entre la sphère de la nature régie par la loi de la sélection et la sphère ou la société civilisée, c'est ce que vous appelez l'effet réversif.
Absolument, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est réversible dans tout ça, j'aimerais qu'on le comprenne. C'est un concept sans lequel le matérialisme ne tient pas. Ce qui se renverse, c'est tout simplement le statut même de la perte des relations à l'intérieur d'un groupe humain. Nous passons d'un état de guerre de tous contre tous, effectivement, qui définit l'état de sélection naturelle, hein, l'état de lutte pour l'existence, et qui est en même temps un état de lutte contre le milieu, à un état où la coopération se développe, où le milieu est dominé, inféodé et aménagé de telle sorte qu'il ne peut plus être une source de lutte pour l'existence, mais au contraire un adjuvant de survie, comme je le disais il y a un instant. Et donc, dans cette nouvelle situation, les relations, bien sûr, s'inversent. C'est-à-dire qu'il n'y a plus nécessité d'élimination, ni par le milieu, ni par la concurrence vitale entre individus, mais au contraire, on assiste à l'avantage reconnu et triomphant des conduites solidaires, de l'entraide, des conduites qui s'opposent à la disqualification des personnes à l'intérieur d'une société. Alors là, bien sûr, qu'on ne me dise pas que je suis en train de faire du Kropotkin, j'ai mille moyens de montrer que c'est beaucoup plus complexe que ça, et que si on s'obstine à ne pas voir chez Darwin les simples énoncés qui décrivent beaucoup plus simplement que je ne suis en train de le dire ce phénomène, c'est qu'il y a quand même une résistance très symptomatique à comprendre ces phénomènes qui s'opposent peut-être à certaines tendances lourdes de nos sociétés modernes, mais qui vont de toute façon dans un sens éthiquement positif, qui est celui de la reconnaissance de l'autre comme semblable, qui est chez Darwin une idée fondamentale.
D'où l'importance du texte sur la sympathie, bien
entendu. Que vous avez absolument lu tout à l'heure. Hein, c'est ce que vous lisiez précisément dans ce texte.
C'est ce que le comédien Georges Clas a interprété le texte qu'on a entendu. On entend le mot-clé de sympathie, l'expression d'acquisition morale, et c'est vrai que c'est un Darwin peu familier qui nous est donné à entendre ici. Darwin, qui d'ailleurs, je l'ai appris en lisant votre ouvrage, cite Kant directement, et alors là, il s'appuie sur une traduction anglaise du fondement de la métaphysique des mœurs, mais il prend un passage assez lyrique de Kant, ce qui est quand même rare, où Kant invoque le devoir pour montrer, enfin, on voit ici toute la dimension morale qui est présente en filigrane dans l'écrit de Darwin.
Absolument. C'est-à-dire que dans la filiation de l'homme, Darwin s'amuse un peu avec la philosophie. Vous savez qu'il n'est pas philosophe et qu'il a eu, par rapport à la philosophie, une attitude aussi distante que celle que je peux avoir moi-même. Et pour lui, la philosophie, c'est un symptôme. Kant, c'est pour lui, même s'il doit être en désaccord avec tout ce que Kant peut expliquer, il va prendre la formule finale, en quelque sorte, de Kant, celle qui fait de l'auto-sacrifice la réalisation la plus élevée de la vie morale, et que va-t-il faire? Eh bien, il va effectivement la présenter comme telle, mais en contrepoint, il va vous parler d'une société d'abeilles où, effectivement, le meurtre des frères serait considéré par une abeille kantienne comme absolument normal et louable, etc. Et en même temps, il va mettre en place tout un dispositif extraordinaire lorsqu'il va parler de la sélection sexuelle, où il va montrer, mais ça c'est l'objet de mon prochain livre, Théorie du sacrifice, où il va montrer que les parades nuptiales chez certains animaux comporte effectivement ce que j'ai nommé une propension auto-sacrificielle absolument extraordinaire.
Bien, merci pour cette invitation à lire votre prochain livre. Pour l'instant, je renvoie les auditeurs à l'ouvrage qui vient de paraître aux éditions Belin. Qu'est-ce que le matérialisme ? Introduction à l'analyse des complexes discursifs. Merci d'être venu en parler aujourd'hui, Patrick Thor.
Je vous en prie, c'est moi.
Yeah.
écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est l'heure de retrouver, comme tous les vendredis, Géraldine Mosna-Savoie qui vient vous proposer son petit précis philosophique à l'usage des candidats. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
À qui choisissez-vous de donner vos conseils aujourd'hui, Géraldine?
Eh bien en fait, ça va être un conseil pour les écolos, parce qu'après quelques visionnages de débats, discours et interviews, un conseil sur l'art oratoire s'impose. Alors c'est un conseil qui peut s'adresser à tous les candidats, mais aujourd'hui il sera donc destiné aux candidats à la primaire Europe Écologie Les Verts, Cécile Duflo, Yannick Jadot, Karim Adeli et Michel Rivasi.
J'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après...
Vous savez ce qu'on va faire ? Je vais pas me présenter du tout.
Personne n'a pu échapper cette semaine au premier débat pour les élections américaines qui a opposé la démocrate Hillary Clinton au républicain Donald Trump. En revanche, peut-être n'avez-vous pas suivi le débat qui a eu lieu mardi soir entre les quatre candidats à la primaire écologiste sur la chaîne parlementaire. Et pourtant, entre le débat américain et le débat français, il y a bien des similitudes. Car dans les deux cas, l'enjeu de tels échanges est moins celui d'enfoncer le clou de ses idées que d'apparaître et de s'affirmer à coups de pique et de réparties bien senties comme le président en puissance.
Alors je suis candidate à l'élection présidentielle car je crois que nous devons faire prendre à la France un grand virage.
Et aujourd'hui, moi, je suis candidate parce que je veux absolument porter nos idées au premier tour de l'élection présidentielle, parce que les Français sont frais, les Français sont écolos.
Je suis assez traumatisée par le fait que les Français ont un rejet de la politique. Tous les politiques sont pourris. Et je me suis dit que c'est pas possible, il y a des politiques qui veulent faire bouger les lignes.
Je suis candidat à l'élection présidentielle parce que j'aime la France. La France a un patrimoine naturel extraordinaire. Elle regorge d'énergie vitale qui foisonne dans toute la société, de femmes et d'hommes qui, chaque jour, construisent le monde de demain.
Cécile Duflo, Karim Adeli, Michel Rivasi et Yannick Jadot, tous les quatre doivent persuader leurs propres partisans tout en s'opposant à leurs alliés. Alors on a déjà évoqué ce paradoxe des primaires avec les Républicains, mais cette fois-ci, le problème peut être pris sous un angle différent. Il ne s'agit pas tant ici de battre des semblables, d'être seul contre tous, de les surplomber, que de faire la différence quand on reconnaît que l'on partage la même conception politique. Telle est donc la question, comment se distinguer quand les idées et les paroles sont les mêmes, quand la cause pour laquelle on se bat et en laquelle on croit n'identifie pas quelqu'un et ne produit aucune singularité.
On légalise cette question. 4 millions de consommateurs occasionnels de cannabis. Karim Adeli, très court, et Cécile Duflo ensuite.
On légalise, oui, moi je pense qu'il faut légaliser, mais il faut encadrer. Légaliser et véritablement encadrer, comme c'est le cas dans de nombreux pays européens.
Cécile Duflo,
certains États américains.
Je pense qu'il faut une politique responsable en matière de drogue, et une politique responsable, c'est la légalisation et une politique de santé publique.
Légalisation du cannabis, mais aussi emploi, sécurité, conception des institutions. Au lendemain de ce débat, les journaux ont anglais, à juste titre, leur papier ainsi. Qu'est-ce qui peut donc bien différencier un candidat écolo d'un autre? Eh bien, en fait, peu de choses. Alors, dans un tel cas de figure, que faire? Eh bien, justement, apparaître et s'affirmer. Mieux, affirmer ses convictions pour s'affirmer soi-même. Et c'est chez le célèbre orateur de la République romaine, Cicéron bien sûr, que l'on apprend le mieux à se singulariser avec des paroles, des pointes et des beaux discours. Oubliez donc l'opposition fond-forme, action-discours. En campagne présidentielle, tout va de pair.
J'ai travaillé dans la solidarité internationale pendant 10 ans. J'ai participé à la construction du mouvement altermondialiste.
Il faut proposer notamment un projet enthousiasmant dans ce climat qui est un petit peu un moment en France de crise morale.
On est dans un monde qui est très angoissant, où il y a des guerres, où il y a des attentats qui nous ont tous traumatisés. Je veux protéger notre santé, je veux protéger notre environnement.
Nous avons besoin, dans un moment où le dérèglement climatique s'accélère, d'un cap. Et c'est celui de la République écologique, c'est le cap que je propose.
Dans sa rhétorique ou de l'art oratoire, Cicéron plus précisément dégage 4 moyens de capter l'attention de son auditoire. Parler de ses adversaires, ce qui est exclu au vu de la bienveillance de ses candidats entre eux, parler de la cause ou alors parler de soi. Mais il ne suffit pas de dire « moi » ou « je » comme Yannick Jadot, ni de dramatiser sa cause comme Karim Adeli et Michel Rivasi, ou alors de faire les deux ensemble comme Cécile Duflo. Il faut en fait se dramatiser soi-même. Plus précisément, et je cite Cicéron, il faut rappeler sa conduite et ses services, repousser les soupçons sur son compte et retracer les malheurs qu'on a éprouvés. Si affirmer des idées, c'est s'affirmer soi, se défendre, c'est donc aussi défendre des idées.
Eh bien, Géraldine, les sons que vous nous avez donné à entendre me laissent penser que ces candidats ont vraiment besoin de vos conseils. Alors, qu'est-ce que vous leur dites?
Ils ont en tout cas besoin de Cicéron. Alors, j'ai dit que Cicéron dégageait quatre moyens de toucher le public, parler de ses adversaires, de sa cause, de soi-même, mais il y a aussi parler de ses juges, de son auditoire, justement. Or, si l'on ne peut conseiller aux écologistes de se battre entre eux comme les républicains, on peut en revanche leur dire, en citant encore Cicéron, qu'il faut louer sans complaisance son auditoire, car pour être identifié, encore faut-il avoir envie de s'identifier à la personne qui parle.
Merci, Géraldine, pour ce précis philosophique à l'usage des candidats qu'on peut télécharger. Il suffit de se rendre sur le site des Nouveaux Chemins.
Exactement, et puis il y a une page dédiée à ce précis sur le site de France Culture.
On y court, merci Géraldine. Les Nouveaux Chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude. On se retrouve lundi pour une nouvelle semaine consacrée à la séduction, au tourment de la séduction de Kierkegaard à Baudrillard, de la tentation de Saint-Antoine de Flaubert aux liaisons dangereuses. La semaine prochaine, préparez-vous au tourbillon de la séduction. D'ici là, pour écouter cette émission, rien de plus simple, rendez-vous sur le site de France Culture, page des Nouveaux Chemins. Vous pourrez non seulement la réécouter en ligne, mais également la télécharger, la podcaster, afin de l'écouter à l'heure de votre choix. L'équipe des Nouveaux Chemins vous donne également rendez-vous sur leur compte Facebook et Twitter, où nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour et attendons vos remarques et commentaires. Un grand merci à l'équipe des Nouveaux Chemins à l'issue de cette semaine, comme toutes les semaines d'ailleurs. Marianne Chasseur, Antoine Rabon, Pierre Brossard, Ariane Mintz, Géraldine Mosna-Savoie bien sûr, Nicolas Berger à la réalisation cette semaine, Jacques Hézubert et Jason Taous à la prise de son. J'en profite pour vous donner rendez-vous lundi prochain, 3 octobre, à Langres, puisque se tiendront les 6e rencontres philosophiques de Langres autour du thème « La démocratie ». Le programme de ces journées à ne pas manquer se trouve en ligne sur les sites des Nouveaux Chemins. Pour l'heure sur France Culture, avant de retrouver Florian Delorme et Culture Monde à 11h, il est temps de retrouver votre feuilleton quotidien « La vie moderne ».